beaucoup. J'ouvre, à ce moment-ci, j'ouvre la séance ordinaire. Il est 19h41 et la séance du conseil débute. Vous avez reçu un ordre du jour. J'aimerais savoir si vous avez des points à ajouter dans affaires municipales ou dans affaires nouvelles. Sinon,
Oui. En affaires municipales, dans le fond, juste pour faire un petit peu la promotion de la fête des trucs qu'il y a là-dessus.
Oh, bonne idée, je l'ai noté.
Un petit plug comme ça.
Affaires municipales, fête des trucs, la tulipe. D'autres points, M. Drouin?
Moi, c'est qu'on parle de la taxe d'assises, la TEC.
La TEC? Dans Affaires nouvelles ou dans Affaires municipales? Affaires municipales.
Dans quel domaine que ça va, je ne sais pas. Affaires municipales, ça doit.
La TEC du Canada. D'autres points? Sinon, je recevrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Bruno, merci beaucoup. Mot de la préfète, d'abord, je vais vous présenter M. Soulard, qui est le maire suppléant de la ville de Témiscamingue, qui va être avec nous pour les prochaines semaines, en l'absence de son maire, M. Gingras. Bienvenue, M. Soulard.
Merci.
Et je pense que ce n'est pas votre première fois, hein?
Non, c'est la deuxième rencontre que je fais avec vous autres. On a eu une l'an passé.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Alors, bienvenue.
Merci.
Et cette semaine, il y a deux points. Le premier, c'est le RAID. Vous donnez des nouvelles du RAID de Témiscamingue, le RAID international sur lequel on travaille. L'organisation va très bien. Il y a un engouement concret pour participer au RAID. Le comité organisateur doit même réfléchir à une sélection des équipes parce que toutes les équipes qui s'inscrivent ne pourront pas nécessairement toutes participer. Ça demande des équipements, ça demande de la surveillance et tout ça. Alors, on envisage même une sélection au niveau des équipes qui s'inscriraient. Je vous rappelle qu'on va avoir 50 équipes de deux jeunes dans le RAID jeunesse, que les inscriptions vont venir un peu plus tard au mois de mars, tout de suite après la semaine de relâche. Le RAID va bien aussi au niveau de la promotion. La Endurance Aventure nous a partagé les dernières données. On trouve que c'est gros les chiffres de 1,5 milliard de vues de notre vidéo du RAID. Mais Endurance Aventure a obtenu les dernières données. C'est le chiffre c'est 1,8 milliard de visionnements. Et ils sont confirmés par tous les mécanismes de leur manière de prendre en considération les visionnements, la diffusion, c'est confirmé de façon très, très formelle, de façon très scientifique. Ça équivaut, pour le Témiscamingue, à une visibilité équivalent à 23 millions de dollars de publicité. Je vous rappelle l'investissement que nous faisons, qu'on a adopté au dernier budget. Vous comprenez qu'on peut dire qu'on en a largement pour notre argent. Les membres du comité organisateur souhaitaient que je vous partage leur très grande satisfaction de la collaboration remarquable des municipalités qui vont être impliquées cette année dans le RAID. Et je le fais publiquement parce que c'est important. Ils ont dit que la collaboration des municipalités, elle est impeccable. Ils sont au-devant de nos demandes. Ils sont participatifs. Si on avait eu ça ailleurs, on aurait été gâtés. Ici, on l'est. Alors, je tenais à vous partager leur satisfaction. Le succès de l'événement, ça repose sur votre implication. Alors, les municipalités concernées l'année prochaine, dans l'édition de septembre prochain, Saint-Bruno-de-Guigues, Notre-Dame-du-Nord, Nédlec, Guérin et Rimigny. Merci beaucoup de vous impliquer dans cette action-là. Merci beaucoup de vous mouiller à votre manière. Dans le RAID Témiscamingue, c'est vraiment une belle activité, très vue, bonne diffusion, c'est gagnant pour nous. L'autre élément que je voulais soulever avec vous, c'est concernant toutes dernières nouvelles du renouvellement du pacte fiscal. Les discussions vont bon train sur le pacte fiscal. Nous, on a eu notamment une discussion sur le volet 3 aujourd'hui. Vous aurez dans les prochains mois des résolutions à adopter à cet égard-là. Mais les discussions vont bon train au niveau des éléments qui vont faire partie du renouvellement du pacte fiscal, notamment en ce qui concerne le plan climat. Et ce qui concerne à d'autres éventualités qui avaient été traitées, notamment l'aspect logement qui ferait partie du Fonds Région Ruralité. Alors, les nouvelles sont bonnes de ce côté-là et les discussions actuellement portent vraiment sur les sommes que les municipalités de moins de 10 000 habitants devront se partager. Il y avait un bonus à la signature, si vous vous souvenez. Et les discussions actuellement portent sur la répartition de ce bonus-là pour faire en sorte que ce ne soit pas juste au prorata de la population, mais qu'on reconnaisse aussi les toutes petites collectivités rurales. Alors, c'était les deux messages que je voulais vous partager, mais pour le RAID Témiscamingue, franchement, bravo. Merci beaucoup tout le monde. Alors, on passe au point 4. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 décembre que vous avez reçu, qui était dans la plateforme. Est-ce que le procès-verbal est conforme aux délibérations, aux discussions qu'on a eues? Si oui, je recevrai une proposition pour l'adoption.
Question.
Oui, Alexandre.
Dans la nomination des comités au point 16 sur le comité aviseur en logement, j'ai remarqué en lisant le procès-verbal que mon nom n'était pas là. Je pense que j'étais membre avant, fait que je ne sais pas si...
C'est un oubli,
parce que... Oui, parce que
j'ai pas...
Ben,
j'aurais
pu rien dire.
Mais quand on envoie la documentation ou les convocations, t'aurais été là, parce que c'est... Parce...
Oui.
Ben, merci d'avoir précisé. Sinon, est-ce que c'est conforme? Est-ce que quelqu'un... Jean? Merci. Jean Martineau? Merci beaucoup. Période de questions de l'assistance, s'il y a lieu.
Bonsoir, madame.
Bonsoir, monsieur Lepage.
En février dernier, j'étais à Berry-Ucquam, à Montréal, puis j'ai demandé un billet d'autobus pour Lorainville au Témiscamingue. Je pense que je l'avais demandé poliment. La personne ne répondait pas. J'ai demandé si ça parlait français. Elle parlait très bien français. On est en Montréal, il y a quand même belle langue. Fait que j'ai reposé la question. Elle m'a répondu qu'il n'y avait pas un circuit d'autobus qui desservait. Elle regardait sur un écran. Fait que là, elle dit, ça se peut pas, j'ai monté en autobus. Bon. Fait que là, elle dit, tu peux-tu m'en dire plus? Ben, elle dit, madame, je viens du Témiscamingue, puis je veux me retourner chez nous. Fait que ma question est la suivante. Est-ce normal qu'on doit s'identifier comme Abitibien pour être de retour au Témiscamingue en 2024? Là, je parais à passer le détecteur de mensonges, si vous pensez correctement. J'ai été poli sur toute la ligne. Puis, elle ne trouvait pas, on n'est même pas identifié dans un circuit d'autobus, le Témiscamingue. Puis ça, c'est chaque semaine là, que les Témiscamiens sont obligés de vivre de pareilles situations. Est-ce qu'on peut reviser notre façon de vendre le Témiscamingue? C'est pas normal qu'on se prostitue, qu'on s'identifie à Abitibien pour s'en venir au Témiscamingue. Bon, ça, je l'ai vécu, puis d'autres le vivent aussi. Ma question est simple. Est-ce qu'on peut revoir notre façon de faire? C'est pas normal.
Alors, merci beaucoup, M. Lepage, pour cette question-là. Moi, j'entends deux choses. D'abord, il y a une éducation continue à faire sur le fait de Témiscamingue. Le nombre de courriels que j'ai adressés au monsieur ou Miss Météo de toutes les chaînes de station, ça en est devenu une blague, là. Mais je vais faire moi, personnellement, une intervention directement auprès d'Autobus Maheu pour que ça se soit corrigé à leur niveau. C'est du personnel, ils payent pour ça. C'est assez cher en plus, c'est près de 300 000 $ qu'ils payent pour avoir un service à Berry-UQAM. Alors, je vais intervenir directement auprès d'eux pour que le Témiscamingue soit reconnu. Ça, je peux vous le dire. Sur notre promotion, je pense que la promotion, on la poursuit. Ce que nous, on met de l'avant dans la promotion, c'est la reconnaissance du territoire. Et pour l'avoir vu dans d'autres régions, il faut le faire longtemps avant que ça rentre dans la tête du monde. Puis les interventions qu'on fait de façon récurrente, on est encore face à des gens qui, pour présenter les nouvelles du territoire témiscamien, ne sont pas capables de nous nommer. Puis on n'est pas obligé d'aller très loin. Des fois, ça, c'est aussi proche que les stations de radio ou de télévision de Rouyn-Noranda. Alors, merci beaucoup de votre commentaire. On va faire les interventions appropriées. Avez-vous une autre question?
Oui, s'il vous plaît. Ce matin, on attendait ces hommes que le Témiscamingue voulait travailler pour avoir, je ne sais pas s'ils parlaient d'un campus, là, ils l'ont très peu dit, là. Campus probablement pas universitaire, collégial, parce que c'était votre voix qu'on attendait, qui disait que les rangs, après leurs études, restent dans un rayon.
Oui, l'analyse de l'Université du Québec à Trois-Rivières, exact.
Bon, ben, pour le Témiscamingue, on projette quel type de campus?
Pour le Témiscamingue, ce qu'on s'aperçoit, c'est que toute la jeunesse qui veut poursuivre ses études quitte le territoire pour aller les poursuivre soit à Rouyn-Noranda, soit à Val-d'Or, soit ailleurs au Québec. Il n'y a aucune offre d'enseignement post-secondaire pour les jeunes dans un parcours régulier qui est disponible au Témiscamingue. Ça se fait. Ils ont ouvert un campus à Amos, ils en ont ouvert un à Val-d'Or, ils en ont ouvert un à Lebel-sur-Quévillon, à Chibougamau. Ça se fait de la part d'une institution collégiale. On ne demande pas qu'il y ait un grand bâtiment avec des résidences, des cuisines, puis tout le bagage, mais il y a des formations. Par exemple, techniques administratives, qui peuvent très bien être dispensées ici sur le territoire témiscamien. Il y a des locaux pour ce faire. Je pense juste à l'unité de recherche à Notre-Dame-du-Nord, qui a des locaux et des services qui peuvent servir plusieurs programmes, notamment les laboratoires. Je pense à la formation en technique infirmière qui est en train de se donner ici à des infirmières qui sont des infirmières immigrantes, des cohortes d'infirmières qui arrivent de l'étranger pour faire leur formation ici pour servir la population d'ici. Pourquoi ça ne pourrait pas être offert également aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui voudraient assumer ces fonctions-là ici dans la région? L'Université du Québec actuellement dispense une formation en enseignement primaire préscolaire et primaire à Notre-Dame-du-Nord. Ça peut se faire. Alors nous, ce qu'on veut faire comme démarche, c'est de mobiliser les maisons d'enseignement pour que certains programmes, qu'il y ait une opportunité pour des clientèles dans certains programmes pour offrir cette formation-là. Est-ce que ça répond à votre question?
On va suivre le dossier, c'est parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de finissants au Témiscamingue.
C'est ce qu'on trouve aussi. C'est exactement ce qu'on trouve aussi. Et 75 % des étudiants s'établissent dans un rayon de 50 km de la dernière institution qu'ils ont fréquentée. Alors, on voudrait bien que ce 50 km-là soit situé au Témiscamingue. Merci pour vos questions, M. Lepage. S'il n'y a pas de questions, je vais passer au suivi d'enjeux ponctuels. Démarche du complexe des eaux profondes. Marc, je te laisse la parole.
C'est sûr que le projet a été présenté en décembre, comme j'ai vu. La présidente Nathalie, je crois, à mon absence, est venue se présenter.
Oui, tout à fait.
Elle voulait aussi, en son nom, remercier toute la démarche là, de la municipalité qu'on fait pour nous appuyer. Donc, c'est sûr qu'on est en attente. Malheureusement, l'attente est longue, là, parce que les derniers échos qu'on a eus, nous, de notre député concernant la présentation, ça ne sera pas avant juin et septembre qu'on va avoir une réponse. Donc, c'est sûr que c'est long. C'est sûr que c'est long, mais d'ici à ce temps-là, on continue, nous, à frapper un peu des portes partout pour essayer de faire ouvrir, parce qu'on sait qu'on a un bon montant d'argent encore à aller chercher. C'est clair, on le sait très bien. Mais on est là-dessus. On va repartir la machine, mais c'est sûr que c'est plus tranquille que ça l'était qu'on a travaillé à l'automne. Là. Je veux dire, quand on est en attente d'une subvention, ben c'est ça. Malheureusement, on attend. Mais on va continuer à travailler, à gratter, à essayer d'ouvrir des portes.
On continue d'attendre.
Puis on attend. On va attendre, mais on... dans ce temps-là, la piscine ne se remplit pas. C'est ça qui est plate un peu. On pourrait mettre de l'eau dedans, mais là, on n'est pas rendu là. En 2025, on est les Jeux du Québec.
Non. Est-ce que vous avez des questions pour Marc? C'est bon. Alors, consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles, juste pour vous informer que dans l'exercice lancé par le MAPAC en 2023 sur la mise à jour de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le 16 janvier dernier, Lynn Gironde, Daniel Dufault et moi-même, on participait à la consultation du ministère de l'Agriculture. On a clairement manifesté qu'on avait des grandes attentes parce que le fonctionnement de la Commission de protection du territoire et des activités agricoles, c'est un fonctionnement très bureaucratique où on retrouve peu d'ancrage dans nos territoires. Alors, on a fait valoir les points, notamment le fait que les cartes, la peinture verte, là, les zones vertes, ça a été fait il y a déjà plus de 20 ans. La dernière mise à jour date d'il y a plus de... c'est 24? 30 ans maintenant. Merci, Daniel. Dans ce contexte-là, et avec toutes les technologies maintenant qui existent, ils ont les possibilités de faire une mise à jour vraiment efficace des cartes. Daniel Dufault, d'ailleurs, a présenté plusieurs situations incohérentes avec la protection du territoire agricole, des refus de la commission alors que... il n'y a aucune activité agricole et que c'est des caps de roche, par exemple. Alors, la démonstration a été faite. On a également fait le commentaire à l'effet que les gens qui prennent les décisions sur notre territoire n'ont aucune idée c'est quoi le territoire témiscamien. Ils n'ont jamais mis les pieds ici. S'ils sont allés à Rouyn-Noranda, on est chanceux, mais maintenant, tout se passe à Québec. Alors, ils n'ont aucune idée des réalités du territoire et de ce que ça a l'air vraiment sur le terrain. Quand on présente une demande. Et on leur a aussi rappelé que le monde agricole actuel est en mouvance. Les fermes sont beaucoup plus petites. Une ferme sur deux, pratiquement, est une toute petite entreprise qui n'a pas besoin de posséder 300 hectares de terre et qu'on était ouvert à développer le monde rural et l'agriculture sur le territoire agricole. C'était utile de rappeler aussi que le Témiscamingue, on a 125 000 hectares de zones hivers, puis on en cultive le tiers. Alors, on a eu à rappeler ça au ministère en leur disant que c'est une grande richesse, puis qu'on aimerait bien que cette richesse-là profite largement à notre population. Les commentaires qu'on a faits ont été, somme toute, bien reçus. Et on devrait avoir des suivis. Le mémoire de la MRC, qui n'était pas encore sur le site de la consultation, l'est maintenant. Alors, on devrait avoir des suivis dans les prochains mois sur les propositions qui seront mises de l'avant pour la mise à jour. Est-ce que vous avez des questions sur notre présentation ou pour les consultations nationales? Monsieur Drouin?
Je pense que tout d'un coup, peut-être trop tard. Je pense que ça a été fait. Mais quand une maison brûle, on a un an pour construire, sinon on perd notre droit, ça s'en va à la commission de protection.
Ça retourne, oui.
Ça retourne. De quel droit qu'ils ont à prendre ça? Tu sais, ça n'appartient pas aux autres avant. Et là, la maison brûle, ou tu en aimes le boîtier, mais si tu ne peux pas boîtier d'un an, peu importe où ça arrive.
Tu perds ton droit.
On perd notre droit. De quel droit qu'ils ont à faire ça? C'est pas eux autres en tout.
Ils devraient le faire leur demande de permis à la municipalité.
Puis il n'y a pas de date de fin de la construction, c'est ça? Hein?
Ça permet d'allonger le
délai. Okay. Est-ce que ça répond à votre question?
Oui, mais c'est bien d'être informé.
Oui. Alain?
Je vois très bien tes commentaires. Effectivement, on se retrouve dans ces situations-là, mais je ne sais pas dans la modification de la loi si. Ça va être compliqué, là. Je réponds déjà à ma question. Non, mais c'est que la manière que ça fonctionne à la commission, c'est les commissaires.
Exact.
Puis, dépendamment du commissaire, qui vont étudier deux projets pareils, et il y en a un qui va refuser, puis l'autre va l'accepter. Tu sais, on n'est pas... On est dans l'arbitraire, tu sais.
Il n'y a pas de balise. Non. Direct.
Bien, ils doivent en avoir, mais ils se ramassent au bout de la ligne. C'est ceux qui ont des valises et des règlements,
ils comprends ça. Ils n'étaient pas pareils.
C'est ça, exactement. C'est que la loi va-tu
encombrer ça? C'est pour ça qu'on a demandé que les gens soient sur le territoire, qu'ils connaissent le territoire, là où ils rendent les décisions. Parce que justement, ça va, face à deux demandes similaires, bien, ils auront la connaissance des demandes et des motivations qui ont conduit aux décisions. Mais ça correspondait à connaître le territoire pour nous. D'autres questions, Alexandre?
Oui, vu qu'on glisse un peu vers la CPTAQ.
Mais c'est la CPTAQ. C'est la CPTAQ.
Non, mais sur les demandes, c'est un petit peu relatif, mais on avait fait une demande à MRC, je crois, de dézonage pour des élus déstructurés il y a quelques temps.
Je ne sais pas s'il
y a eu de l'évolution sur ce dossier-là.
Non, mais il y a eu une présentation magistrale de Daniel Dufault devant les membres du MAPAC qui consultaient.
C'était inclus dans le mémoire, vous vous souvenez, le mémoire qu'on a déposé au mois d'août au conseil? Ça faisait partie de cette consultation-là.
C'était dans le mémoire, oui.
C'était cette documentation-là qu'on a discuté.
Et on a fait la démonstration, séance tenante aussi, carte à l'appui. Ça a été un des points forts de l'après-midi. Okay. D'autres questions? Alors, services gouvernementaux de proximité. De fait, vous vous doutez que c'est la société d'assurance automobile dont on peut parler. On a, incidemment, j'ai eu beaucoup de commentaires de citoyens. Les gens sont contents qu'on défende leurs services de proximité. Il y a une seule personne, j'ai aucune idée c'est qui, son courriel c'est M. Thibault. Alors, j'ai aucune idée c'est qui, mais qui me dit... Qu'est-ce que ça fait? On a juste à y aller le mardi si c'est fermé le lundi. Bon. Mais on a eu une rencontre avec la SAAQ vendredi dernier. Martin Lefebvre, Norm Young étaient avec nous, Pierre Gingras également. On a demandé c'est cinq bureaux dans des régions rurales qui ont été fermés. On a demandé comment ça se passait. La réponse était... une réponse bureaucratique par excellence, si je peux le dire comme ça. Je leur ai simplement dit, arrêtez de nous calculer, desservez-nous. La réponse de la dame, c'est, on n'a pas fait moins de services parce qu'on a fermé une journée. On a servi le même nombre de clientèles, mais sur 4 jours. Ça ne vous a pas affecté. Excuse-moi, si la personne, son congé, c'est le lundi, puis qu'elle n'a pas accès à la SAQ, elle n'a pas eu le service. Donc, on leur a bien parlé de service, puis d'arrêter de nous calculer. On n'est pas des colonnes de chiffres dans nos territoires. On est des citoyens de plein droit. Et dans ce contexte-là, ils doivent tenir compte des distances à parcourir pour la clientèle. Ils doivent s'ajuster à un principe où on dessert la population. On ne calcule pas à quel service ces populations-là ont droit. On dessert la population. Et on a aussi martelé le fait que si vous voulez faire ce genre de projet pilote-là, il y a eu des propositions pour faire vraiment un projet pilote. Notamment, le maire de Ville-Marie avait dit ben, étirer les heures d'ouverture une autre journée pour permettre à de la clientèle qui... Et on leur a bien répété que nous, on s'adressait également à la ministre des Transports, et au premier ministre dans ce dossier-là. Le lendemain, le même après-midi, on avait le chef de cabinet adjoint, Marc Fréchette, de Mme Guilbeault, qui était là, et on lui a resoumis le point en disant que c'était inacceptable. Il a bien mentionné que c'est pas mon dossier, mais comptez sur moi pour transmettre le message. Alors, sur les services de proximité, ce sera une bataille, puis on va la poursuivre. Luc?
Bien, vous savez que dans un projet pilote, des fois, on en fait des projets pilotes, on trouve que c'est correct, parce que c'est un projet pilote pour nous aider. Et là, on va l'inverser. Si ça fonctionne bien, le projet pilote, ça ne sera pas rien que 5 régions. Ils vont l'étendre à grandeur, probablement, du Québec, dans les régions. Qui vous dit que dans 2 ans, lorsque le projet pilote, ils vont vous convaincre que c'est 2 roues que ça va lui prendre. Là, ce qu'on perd, ces services gouvernementaux-là, rappelez-vous, lorsqu'on a perdu les services gouvernementaux fédéraux à Rouen,
exact.
Comment que ça nous a nuit, c'était Rouen, là. C'était 1h30 de chez nous, là. mais c'est pas mal plus proche que Longueuil, là, parce que tous ces services-là sont rendus à Longueuil. Donc, petit à petit, là, on perd ce genre de service-là, on perd aussi, des fois on critique les fonctionnaires, mais on les perd en même temps. Il y a un danger d'un projet pilote de ce sens-là, que, oh, ça a bien fonctionné, on va vous mettre deux roues, ou on va l'envoyer à plus de régions. Il faut se lever contre ça, absolument. Puis la réponse, là, que, tu sais, le lundi, là, moi je peux y aller le lundi, mais il y a qu'à y aller le mardi, c'est pas lui qui décide quand est-ce que moi, je vais décider d'aller. J'en viens pas que quelqu'un te donne la réponse de ce type-là. Si ça me donne, moi, le lundi, pourquoi ça me donne?
Oh, c'est un commentaire. J'ai aucune idée parce que je savais pas à qui je pouvais répondre.
Je peux-tu
j'ai
dire
aucune
que
idée, viendrai... c'est qui? C'est M. Thibault.
Je viendrai à Sévère lorsqu'il me donnerait cette réponse-là.
Ben, regarde, c'est... Si je mets... J'ai un commentaire comme ça, puis j'en ai 150 complètement différents, là, qui vont... Merci beaucoup de défendre nos services. Alors, dans ce contexte-là, regarde, c'est...
Mais il y a un danger.
Il y a un danger, puis il y a un danger que ça se répercute dans d'autres ministères, les quelques autres ministères qui restent sur le territoire. On ne veut pas que ça arrive. On ne veut pas que ça arrive. Est-ce qu'il y a des questions sur les services de proximité? Sinon, on va passer au point 7, le Fonds Région Ruralité. Projet non recommandé. Lynn, information?
Bien, c'est un dépôt de documents, donc, comme convenu, quand il y a un projet qui est déposé, mais qui est non recommandé par le comité du CAM, on vous dépose quand même la fiche présentant le projet, mais on n'en fait pas une présentation lors du conseil. Mm-hmm.
Cela dit, sur le projet que vous avez devant vous, il est probable que ça va revenir, mais parce que le projet était tout à fait recevable et acceptable, mais on a dirigé les promoteurs vers d'autres enveloppes disponibles. Et les enveloppes du volet 2 ou du volet 1 à Rouyn-Noranda pourront combler les manques à gagner. Mais d'autres enveloppes importantes étaient disponibles pour répondre aux besoins de ce projet-là et on a dirigé les promoteurs vers ces enveloppes-là. On n'a pas dit non, on les a redirigées et la porte reste ouverte. Questions, commentaires sur le dossier? Alors, on passe au point administration. Lynn, gestion de ressources humaines.
Oui, donc ce soir, vous avez une recommandation du comité administratif de nommer M. Éric Lepage à titre de directeur à l'aménagement et au développement du territoire. Comme vous savez, le poste de directeur est vacant depuis mai 2023. Il y a eu des concours, il y a eu plusieurs actions qui ont été faites pour tenter de combler le poste. Et, il y a quelqu'un à l'interne qui a levé la main avant les fêtes. Donc, Éric a manifesté un intérêt vers ce poste-là. Donc, par contre, il veut y aller pour une période d'essai de 6 mois. Il conserverait le mandat de commissaire industriel. Puis, au terme de 6 mois, ben, il va nous dire...
Quel des deux postes il garde?
Le choix qu'il va faire, s'il continue comme directeur, s'il veut continuer à maintenir les deux mandats. Ce soir, ce serait de procéder à la nomination de M. Éric Lepage à titre de directeur d'aménagement et de développement du territoire pour la MRC Témiscamingue. Puis, naturellement, ça l'amène à une modification au niveau de l'échelon salarial. Donc, de fixer son salaire annuel à 80 917. Bon, là, j'ai un effet rétroactif parce que, bien qu'il n'est pas nommé encore, il me donne déjà un coup de main en prenant certaines tâches. Là. Donc, c'est pour ça que je vous propose un effet rétroactif.
L'effet rétroactif avait été soulevé au comité administratif justement pour en prendre.
Le texte de modifier l'échelon salarial de M. Diri.
Ouais, c'est quoi ça?
C'est un copier-coller. Copier-coller.
C'est le page qui va là, ils n'ont pas monsieur.
Pour nous, j'ai en
conséquence. Oui, de modifier en conséquence.
Bon, je fais du copier-coller, moi, dans la vie.
Ça arrive, et je suis prêt à proposer.
Merci, Alexandre. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Oui.
Alors, félicitations, M. Éric Lepage, nouveau directeur à l'aménagement. Bravo.
Ouais, c'est ça, il est commissaire industriel. Dans le salaire, il fait deux jobs, c'est parfait.
Il est probablement le rêve d'aventure.
Non, Éric, j'ai dit non.
Okay. Alors, elle m'a demandé de trouver un nom. J'ai trouvé un.